Merci à vous d'être présents ce 2 novembre, un samedi pendant les vacances scolaires. Voilà. On accueille aujourd'hui pour une conférence sur la santé et la médecine quantique Gérard Belot, que je connais depuis 30 ans à peu près. Nous avons collaboré ensemble, on a travaillé ensemble, on s'est formés ensemble. Et donc j'ai toute confiance en son intervention et en sa pratique. C'est la raison pour laquelle il est ici, dans ce lieu où on fait les expositions, on reçoit des gens qui ont une intégrité, un sérieux professionnel, même s'ils ne sont pas artistes. Je vous laisse la parole à Gérard Belot.
Bonjour, merci. Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique, cette galerie d'art, une exposition sur le féminin. Alors, moi je vais parler aujourd'hui, ça peut être une bonne idée en effet d'éteindre les... quand c'est possible bien évidemment. Je vais vous parler aujourd'hui du mental. Et pour que vous puissiez être disponible, je vous propose de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux ou non, de poser vos pieds à plat ou non, en tout cas de prendre une grande inspiration et de souffler tranquillement, prendre quelques inspirations, histoire justement d'apaiser un peu le mental, toutes vos préoccupations, toutes vos excitations, juste de respirer pour le plaisir de respirer, d'apprécier le contact de vos pieds sur le sol, des points d'appui de votre corps sur le siège, et ce faisant, d'imaginer une ambiance lumineuse qui nous enveloppe les uns les autres, les uns les unes, pendant ce temps de rencontre, dans une dimension peut-être légèrement différente, où le temps et l'espace peuvent prendre une autre réalité. De vous laisser le temps de vous détendre, de vous poser. Savourez cet instant et puis, quand vous serez disponible, vous ouvrirez les yeux. Donc la grande ligne pour aujourd'hui, c'est parler du mental. Quelle est cette structure de notre personnalité ? Comment s'y prend-elle pour que nous puissions être malheureux dans la vie? Bon, ça, je ne vais pas donner une bande d'emploi, chacun a le sien. Et j'aborderai aussi comment transcender cet aspect du mental. Et ce que je marquais, c'est dans le petit texte de présentation, c'est il y a bien des gens qui disent qu'il faut tuer le mental. Et si on s'en faisait un ami? Si on s'en faisait un allié. Voyez ? Et je vais vous proposer déjà d'imaginer ce qu'est le mental. Mais pour parler du mental, on va regarder une vision plus large, plus globale. Imaginons un instant que nous soyons des êtres de lumière. Et j'ai lu ça il y a quelques années sur un auteur qui disait « Mais l'âme, l'être de lumière, vient sur Terre en vacances. » Oh, j'ai trouvé ça fun. Vacances, étymologiquement, ça veut dire être libre. Hein? Un appartement vacances est un appartement libre. Donc, venir en vacances. Bon, pour beaucoup de gens qui sont dans la galère, dire « Oh, en vacances sur Terre, c'est peut-être un peu osé. » Mais il faut oser, justement. Donc, en tant qu'âme, on pourrait dire que nous sommes pure lumière, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous allons prendre une forme humaine, et pour ce faire, nous allons passer par différents corps, ça c'est la tradition en Inde, cette vision d'enveloppe énergétique, qui sont des séquences vibratoires de plus en plus lentes, jusqu'à obtenir un corps physique, qui a une fréquence lente, qui est en lien avec la matière. Et c'est, mais on ne s'y trompe pas, la matière, c'est 0,5% de qui nous sommes. La matière, si on parle d'un atome, vous voyez le centre atomique, et autour, il y a des électrons. Il y a peu de masse, mais beaucoup d'énergie. Les gens peuvent dire, il y a du vide. Le vide, c'est l'énergie. Et donc, il y a peu de masse, mais plein d'énergie, plein de mouvements. Et donc, il y a encore plein de mouvements dans notre corps physique, mais notre âme est d'une vitesse beaucoup plus rapide. Donc, nous ralentissons nos fréquences pour arriver à un endroit qui est plutôt dense et lourd. Et donc, ça, c'est le corps. On emprunte à la Terre un certain nombre d'atomes pour construire notre corps. Et en ce sens, quand on va parler du mental, je vais parler de la mort. Bon, on va commencer tout de suite là-dessus. Parce qu'on a peu de certitudes sur Terre. On sait qu'on est et on meurt. On meurt. Ça, c'est la première certitude. C'est la vie. Des gens qui opposent la vie et la mort, non. C'est il y a la naissance, puis il y a la mort. Et entre, la deuxième certitude que nous avons, c'est que tout est changement. Après, bon. Donc, notre corps lui-même, il ne meurt pas. Les atomes qu'il compose sont recyclés par la Terre. Donc, vous avez déjà entendu parler, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est en ce qui concerne la matière. Notre être de lumière, l'être de lumière que nous sommes, plutôt, notre âme, dans la plupart des traditions, elle ne meurt pas, elle est éternelle. Notre mental, lui, c'est la forme que nous prenons en étant sur Terre. Et cette forme-là, elle, disparaît. C'est cette forme qui est créée par notre âme pour notre séjour sur Terre. Ce mental, c'est notre vêtement sur Terre. Or, le mental, lui, ben, il a conscience qu'il va disparaître. Donc, tout ce qui va être les phénomènes anxieux de notre vie, anxieux, ça veut dire être à l'étroit. Tous les phénomènes anxieux sont l'affaire du mental. Le mental adore le doute. Oui, mais alors si je fais ci, je n'aurai pas ça, mais si je fais ça, je n'aurai pas ci. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Et puis, après, à chacun de vous d'imaginer ce que vous croyez de la vie. Et le plus simple, ce que vous croyez de la vie, c'est imaginer. Vous mettez un clou au mur, vous tapez sur le doigt, vous dites quelque chose à ce moment-là, c'est ce que vous croyez de la vie. C'est aussi simple que ça. Peu de gens vont se dire des choses encourageantes à ce moment-là. Certains, oui, mais la plupart vont dire des petits mots d'oiseau. Bon. Donc, tout ce qui va être de nos croyances. La fois dernière, j'abordais le transgénérationnel en parlant d'un certain nombre de virus comme Epstein-Barr ou l'herpès. Ce sont des virus transgénérationnels qui, de mon point de vue, contiennent une mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire que ces virus-là, ils nous donnent des informations. Ils transmettent des informations de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Nous ne sommes pas des générations spontanées. Cool. Donc, ce mental, il abrite ce que j'appelle le mensonge personnel. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne, je suis un imposteur. Ça, on pourrait en faire une encyclopédie. Mais ce mensonge personnel, c'est la base de nos croyances. Ce que nous croyons de nous, et ça, c'est un aspect subconscient ou inconscient. Subconscient dans la mesure où on en a plus ou moins conscience, mais la dynamique inconsciente, c'est en lien avec la croyance de nos ancêtres et le karma, ce que nous avons besoin en tant qu'âme de nettoyer en venant sur Terre. Et c'est rigolo parce que, en tant qu'âme, nous choisissons ce qu'on va aborder sur Terre, ce qu'on a besoin de nettoyer, et on choisit notre lignée familiale en fonction de cela. Donc il y a une rencontre entre notre karma et les douleurs transgénérationnelles et les richesses transgénérationnelles. Ici, dans le Nord, on peut imaginer que les anciens, ceux qui étaient mineurs au fond, ils espéraient pour leur descendance une vie meilleure. Mais en même temps, il y avait toute cette douleur, ce rapport à la mort au fond de la mine. Et tout ça, ça a été transmis. Et de génération en génération, chaque enfant n'a pas pris la même chose. Ma croyance personnelle, c'est que chaque enfant s'incarne dans une famille pour apporter une guérison aux parents. Mais bien souvent, c'est une guérison illusoire. Vous voyez, la petite fille ou le petit garçon qui prend inconsciemment en charge la dépression de sa maman, le fond de ce mouvement, c'est un acte d'amour. Mais prendre la dépression de sa maman ou de son papa, ça ne les aide pas, ça ne les guérit pas. Et après, devenu adulte, cet enfant porte une pathologie qui n'est pas la sienne. Porter la dépression de sa mère ou de son père, on ne peut pas en guérir. On peut juste redonner à César ce qui appartient à César. On est vraiment là dans le monde du mental. Nous croyons que... Et comme on porte la dépression de quelqu'un d'autre, on se fabrique la sienne, mais de celle-là, on peut en guérir. Mais ça demande un travail plutôt artistique, je dirais, de discerner ce qu'il y a besoin de faire apparaître pour que chacun puisse retrouver son propre mouvement de vie. Donc, entendez, dès qu'il y a ce phénomène anxieux, de doute, de crainte, le mensonge personnel, le mental, c'est des mots comme « toujours, jamais ». Je n'y arriverai jamais. Ça, c'est le mental qui crie. Allez, permettez-moi. Le mental, c'est comme certains hommes politiques. Les hommes politiques, a priori, sont au service des citoyens. Ils sont les représentants et ils œuvrent pour le bien-être des citoyens. Ça va, c'est sobre comme définition. Et il y a certains hommes politiques qui, à certains moments, se prennent pour le big boss. Ils sont au service, mais au lieu d'être au service, ils font pour eux. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un serviteur chez vous qui, à un moment donné, dit non, moi je suis chauffeur, mais là aujourd'hui j'ai pas envie de sortir. Ou non, aujourd'hui j'ai envie de prendre la voiture et je vais me promener. Et donc le serviteur se prend pour le big boss. Et bien c'est exactement ce que fait le mental. Et c'est lui qui dirige notre vie. Et à ce moment-là, nous perdons le contact avec qui nous sommes vraiment. Et ce que je vous suggère, c'est d'imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que nous sommes des êtres incarnés parmi d'autres. Et notre job en tant qu'âme, c'est justement d'apprendre à transcender ce mental, à remettre le mental à sa place, parce que nous avons besoin du mental. Le mental, c'est ce qui nous permet d'arriver à l'heure. Le mental, on range un certain nombre de croyances dedans. Quand on était petit, on a appris à ouvrir une porte. Aujourd'hui, on sait ouvrir quasiment toutes les portes sans avoir à réfléchir. Et le mental a plusieurs niveaux de conscience, mais c'est vraiment une aide sur Terre. Et c'est important de le remettre à sa place. Et pour remettre le mental à sa place, c'est de prendre plus notre place en tant qu'être de lumière. Ce qui m'a paru il y a quelques années, ce qui m'a été soufflé, c'est une métaphore. Vous prenez un verre, et ce verre, il y a de l'huile dedans. Il y a une bouteille d'huile qui est au-dessus. Et comment faire pour que ce verre n'ait plus d'huile, en sachant que si on casse le verre, il revient, il y a toujours de l'huile. Si on enlève la bouteille, elle revient, il y a toujours de l'huile. Donc ça, c'est la réalité de départ. Il y a un verre avec de l'huile et de l'huile qui est versée. Comment faire pour qu'il n'y ait plus d'huile dans ce verre? Donc on va chercher à retirer des choses. Quelqu'un a une petite idée?
On met de l'eau.
On met de l'eau, exactement. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir retrancher des choses dans notre vie, ce qui est important, c'est d'en rajouter. Et donc de rajouter de l'eau, l'huile surnage. Donc c'est le mental qui est évacué. Plus on est dans cette eau lumineuse, plus ce qui est du mental s'en va. Et on peut avoir des à-coups, c'est-à-dire un gros à-coup d'huile, mais l'huile va aller au fond, hop, puis elle remonte, elle est évacuée. Voilà donc ce que je vous propose comme métaphore. Je vais continuer un peu plus sur le mental, ou est-ce que vous avez votre dose à propos des choses un peu lourdes? Parce qu'on peut en raconter sur le mental. Moi, j'ai pratiqué la psychothérapie pendant une trentaine d'années, donc j'ai un certain nombre d'exemples à donner. On pourrait être assez intarissable. Et puis chacun de vous peut aussi raconter ce qui l'emmène. Le mental, c'est aussi un filtre. En PNL humaniste, on dit que la réalité n'est que la perception de notre réalité. Donc en fonction des filtres que nous avons, nous allons voir tel aspect de notre vie d'une certaine façon ou bien d'une autre. Vous voyez quelqu'un qui a une croyance absolument fabuleuse, la vie est une longue tartine de merde et il faut en manger un peu tous les jours. C'est pas mal, hein, comme va percevoir la vie d'une certaine façon. Ça va être coloré, ça va être parfumé d'une certaine façon. Dit autrement, je vous raconte une histoire. C'est une histoire ancienne. C'est un vieux monsieur dans une contrée reculée. Il est dans un petit village. Et il a un cheval. Et les gens du village lui disent, mais toi, t'as de la chance. T'as de la chance. T'as un cheval. Il est vieux, mais t'as un cheval. Et le vieil homme dit, oui, c'est comme ça. Et puis, son cheval vieillit un peu. Et les gens du village lui disent, mais ça y est, ton cheval, il commence à boiter. T'as pas de chance. Non, vraiment, t'as pas de chance. Et le vieil homme dit oui. Et un jour même, le cheval s'en va. Il s'absente un jour, deux jours, une semaine, deux semaines. Et les gens du village viennent voir ce vieil homme et disent, mais vraiment, vraiment, tu n'avais pas de chance. Tu n'avais qu'un cheval et il est parti. Que vas-tu faire maintenant? Ton fils est là, certes, mais... Et quelque temps après, le cheval revient, amenant 4-5 chevaux. En plus, des chevaux sauvages. Que disent les gens du village? Mais t'as de la chance, toi! Et le fils commence à s'occuper des chevaux, et le fils se casse la jambe. Les gens du village disent, mais tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance. Et comme c'est une vieille histoire, il y a les gens du roi qui viennent et qui enroulent de force tous les jeunes du village parce que c'est la guerre. Mais le fils s'est cassé la jambe. Il ne peut pas être enrôlé. Les gens du village disent quoi? Mais toi, tu as de la chance. Tu as de la chance. Et le vieil homme répond, oui, C'est comme ça. Donc vous voyez, l'interprétation que nous pouvons faire de tout ce qui nous arrive, mais on n'en sait rien. Je commençais tout à l'heure à vous dire, c'est une sorte de fréquence qui se réduit pour être notre conscience de tous les jours, qui est une conscience comme ça, très étroite, étroite, anxieuse. Et donc dans ce champ de conscience, quand il y a quelque chose qui nous vient, on le vit en inconfort, en confort ou en inconfort, agréable, désagréable, de façon très binaire, parce que notre mental est très binaire. Mais peut-être ça vous est déjà arrivé d'être au volant de votre voiture, de vouloir démarrer au feu vert et de caler. Ah non, 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 et il y a une voiture, ouf, qui grillait le feu rouge en face. Là encore, chance ou malchance ? Ce sont des exemples faciles, ça, parce que c'est immédiat. Mais quand il nous arrive quelque chose dans la vie, quelque chose de difficile, c'est aussi important de se dire, mais je n'en vois qu'un petit bout. Et donc, soit vous dites, qu'est-ce qui m'arrive encore ? Soit vous commencez à être dans la confiance en vous, ça j'en parle après, dans la confiance dans l'univers et de dire, je ne comprends pas, mais il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est bon pour moi. C'est entrer dans une vision du monde où l'univers est généreux. Certains vont dire Dieu, moi je parle volontiers de l'univers, comme ça, ça me permet de parler plus largement.
J'ai une question. Oui. Les planètes, est-ce qu'elles ont une influence par rapport aux fées ? J'ai une question par rapport aux planètes, à l'alignement des planètes. Savoir si elles vont nous inciter à être plus dans le mental, à nettoyer un peu plus, à être plus dans la confiance à certains moments. Enfin, voilà.
Alors, les planètes. Les planètes, c'est un champ de conscience particulier qui ont leur influence. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Électromagnétiques parce que, si vous avez entendu ce que je disais au début, notre corps est composé de cellules, composé d'atomes, un noyau nucléaire, des électrons qui tournent autour. Et nous sommes ultra sensibles à différents aspects. La fonction, le spin, la rotation des électrons va être influencée par des choses directes, comme un four à micro-ondes si vous êtes à côté, un téléphone portable. Tout ça, ce sont des hautes fréquences, donc ça perturbe notre champ vibratoire. Mais les éruptions solaires, si vous regardez, à chaque fois qu'il y a une éruption solaire forte, il y a un changement terrestre au niveau de la politique. Il se passe un certain nombre de choses directes. Les astres, il y a toute une étude qui date de quelques millénaires sur l'astrologie. Comment nous avons une influence, ou plutôt comment nous sommes influencés, on va le dire dans ce sens-là. Et moi, je suis persuadé que l'enfant choisit l'heure de sa naissance. C'est l'enfant qui déclenche le processus de la naissance. Il donne des coups de pied dans le fond de l'utérus et fout, 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 fout. Ce qui est un peu délicat de fait quand on déclenche l'accouchement, mais ça, c'est une autre histoire. Il choisit cela en fonction d'un alignement des planètes et une cartographie. Donc, dans ma vision du monde, oui, les planètes ont une influence. Je le dis encore autrement. Le foie. Imaginez une cellule. Imaginez un électron, un noyau nucléaire avec des électrons qui tournent autour. Et imaginez sur un électron, un habitant. Et cet habitant, en fonction de comment est votre foie, c'est-à-dire comment, vous voyez, le noyau nucléaire, c'est un peu comme un soleil, les électrons, c'est un peu comme des planètes. Notre planète ici est habitée, imaginez qu'il y a une planète de votre foie qui soit habitée. Votre foie, c'est la Voie lactée, c'est un système. Mais cette Voie lactée, elle est dans un système encore plus grand, le système digestif, qui est dans un système encore plus grand, qui est notre corps. Donc sûrement que les autres électrons, la Voie lactée, a une influence sur cet habitant d'un électron. C'est le microcosme et le macrocosme, cher aux anciens philosophes, et aussi aux Rose-Croix. Donc oui, il y a cette influence. Et si je reste sur cet habitant d'un électron, d'une molécule de notre foie, nous sommes qui pour cet habitant? Oui, nous sommes un être fini. Nous sommes comme Dieu. Ah, mince, ça veut dire quoi alors? Qu'au fond, on se croit pas grand-chose, ou beaucoup, si on revenait juste à notre place, d'être un élément dans une vibration unique, une vibration qui porte tout l'univers. Einstein disait, on connaît bien des lois qui régissent l'univers, mais on ne connaît pas la loi qui régit toutes les lois. Si cette vibration unique, on pouvait l'appeler l'amour, par exemple, ou la lumière. Imaginez ce qui se passe pour cet habitant d'un électron de notre foie, et nous, par rapport à l'univers. Vous voyez, être à la fois à un endroit, être à la fois à un autre. J'en dis quelques mots en plus dans quelques instants. Donc comment je perçois ce que je perçois, c'est vraiment le propre du mental. Nous avons cinq sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, ça c'est ce qu'on utilise le plus, mais les plus forts, c'est l'olfactif et le gustatif. L'olfactif, c'est le premier système de perception qui est mis en place à notre naissance. Dans le meilleur des mondes, l'enfant, quand il naît, on le met sur le ventre de sa maman, il crapahute tout de suite vers le sein pour avoir le colostrum qui va lancer tout son microbiote intestinal. Et pour des civilisations qui ont gardé encore un contact avec la nature, ce qui était dit, c'est que dans certaines tribus d'Afrique, même une femme aveugle peut reconnaître à l'odeur son fils. C'est extraordinaire. Bon, donc notre perception, ce que je disais tout à l'heure, elle est tronquée en fonction de ce que nous croyons du monde. Alors, je reste dans le concret avant de faire une grande envolée à plus de 300 000 km/s, ce qui est la vitesse de la lumière. Ça va, j'ai assez dit de choses sur le mental. Si après vous avez des questions ou si vous voulez parler de votre mental à vous, on peut s'amuser, c'est très fun. Hein, c'est pas dramatique du tout, nous avons tous un mental, il est plus ou moins rigide, et en prenant de l'âge, il se rigidifie. Voilà, ça c'est dit. Et on va regarder dans le concret, avant l'envoler. Que pourrions-nous faire pour alléger notre mental? Question intéressante. Je pense que c'est aussi pour ça que cette conférence est intimiste. Vous voyez, parler du mental, ce n'est pas des choses très, très... Parce que le mental, c'est « je suis ». Le mental, c'est « est-ce que c'est prouvé ?» Le mental a été très valorisé du moment où la science a été séparée de la religion. Surmonte à quelques centaines d'années, religion et science, c'était les mêmes personnes. Descartes, c'est un religieux. On n'a pas compris ce qui a été dit. Quand on dit c'est cartésien, c'est je vois ce que je crois, ce n'est pas vraiment le propos de Descartes. Pour Descartes, tout est l'expression du divin. Et donc ce que je ne comprends pas, j'ai à l'explorer comme expression du divin. « Alors, pour l'alléger, ce mental, ben, il y a différentes approches. Et il y a quelque chose qui ne plaît pas beaucoup, c'est l'apprentissage de la discipline. Le top de la discipline se passe bien sûr dans les monastères, dans les cloîtres. C'est rythmé tout au long de la journée, on commence à 4h du mat, on fait de la prière, on fait des prières, on fait des travaux dans les champs ou des travaux, hein, puis prière, puis une autre activité, puis prière, et on est tous habillés pareil. Il y a des variantes en fonction des... Et là, c'est un apprentissage pour valoriser par la prière une dynamique lumineuse, dans le meilleur des mondes. Parce que bien souvent, la prière n'est pas comprise ou n'est pas pratiquée en tant que lumière. Vous voyez, dans les guerres de religion, chacun prie son Dieu pour gagner. Ça n'a pas vraiment de sens. Ça, c'est prier le mental, mais c'est pas prier le divin. Et beaucoup de prières s'adressent au mental. Dès qu'on demande quelque chose, on ne prie pas. Il me semble humblement que la prière, c'est remercier. Remercier de ce qui est déjà là et remercier de ce qui est en cours. Tu as un projet, c'est... Il est en route déjà depuis un certain temps, avant que ton mental puisse baigner dedans, mais ta conscience est dans ce projet depuis plus de 6 mois. Et donc c'est prier, ce serait remercier qui tu as envie de ce qui est déjà là. Et ça, ça s'appelle la confiance. Je fais un petit détour. La confiance... On parle du féminin, j'ai une exposition sur le féminin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le féminin, c'est bien qu'il y ait des artistes femmes pour des œuvres féminines, mais qu'il y ait des artistes hommes pour des œuvres qui parlent de l'énergie féminine. Parce que nous sommes composés d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. Or, nous avons besoin que ce féminin et ce masculin se rencontrent au-dedans de nous. Ça s'appelle les fiançailles. Vous voyez, quand le féminin et le masculin se rencontrent. Et fiançailles, confiance. Fiançailles, confiance, c'est se fiancer avec, hein, la confiance. Après, alors il y a déjà les retrouvailles, j'étais un peu vite. Il y a les retrouvailles. Accepter qu'il y ait du féminin, qu'il y ait du masculin. Un féminin immature, un masculin immature. Les amener à se mûrir, à ce qu'ils mûrissent. Oui. Il y a les fiançailles, et après les fiançailles, il y a les épousailles. Et dans ce mariage sacré, c'est se jurer, donc c'est un acte sacré, se jurer fidélité, c'est-à-dire être fidèle à soi, être fidèle au féminin, au masculin qui est à l'intérieur de soi. Et dans ce mariage interne, dans ce mariage sacré, alors je peux prendre appui sur moi et rencontrer quelqu'un d'autre. Et me marier avec quelqu'un d'autre, qui est aussi un acte sacré, mais extérieur, qui n'a de sens que s'il prend appui sur ce mariage interne. Beaucoup de gens vont chercher leur moitié. Ben, si on fait des mathématiques, si vous cherchez votre moitié, c'est que vous ne vous considérez que comme une moitié d'être. Dans ce que je vous suggère, c'est en vous mariant avec vous-même de façon interne, c'est entrer dans votre puissance, la puissance de femme, la puissance d'homme, et donc de rencontrer quelqu'un qui se soit également marié avec lui-même, et c'est la rencontre de deux êtres pleins et entiers. Et 1 plus 1, ça fait 3 ou plus. Vous voyez, tout cet aspect lumineux qui est une... peut-être je suis perdu d'un endroit, je suis parti d'un endroit, j'ai perdu...
Sur la confiance,
voilà. Et donc cette confiance, comme elle est portée en moi, bien nécessairement, cette foi que je porte en moi, pour moi, je la porte aussi pour l'autre. J'ai confiance en l'autre, j'ai confiance dans une dynamique plus grande, j'ai confiance dans la vie. Oui, en PNL humaniste, on parle d'un index de computation qui est, me semble-t-il, la base même de l'équilibre, de la joie. C'est tenir compte de soi en même temps que je tiens compte de l'autre, en même temps que je tiens compte de l'environnement. Toutes mes décisions prennent appui sur cet aspect-là. Dès qu'il y a un des trois termes qui est méconnu, c'est l'exclusion. J'ai raison, t'as tort. Ça, c'est le mental. Mais entendons bien, pour que je puisse dire j'ai raison, t'as tort, il faut que l'autre accepte de dire de toute façon, j'aurais tort. C'est complémentaire. C'est fun, le mental. Franchement, c'est fun. Dans cette idée, c'est quand je prends une décision, est-ce que c'est juste pour moi dans le terme ajusté ? Vous savez, c'est de la mécanique de précision. Est-ce que ça va le faire ? C'est bien, mais ça, ça ne suffit pas. C'est toujours de l'exclusion. C'est du mental. Il y a des gens qui disent « Ah ben non, je fais ça parce que c'est juste pour moi. » Oui, c'est bien, mais non. Est-ce que ce que je vais dire, c'est en fonction de mes valeurs ? Et ce que je vais dire, est-ce que ça va être bon pour l'autre ? Je n'ai pas dit agréable. Dans l'amour, on dit des choses qui ne sont pas toujours plaisantes à l'autre, mais dans l'idée d'une croissance. Donc, quand je dis quelque chose ou quand je prends une décision, est-ce que dans cette décision, j'ai ma place ? Est-ce que l'autre a sa place ? Et est-ce que dans l'univers, c'est cohérent ?
Donc une réaction égoïste à l'exclusion.
L'égoïsme, c'est l'exclusion. Donc on peut...
Je pense donc tu suis.
Pardon ?
Je pense donc tu suis.
Par exemple. Par exemple. Mais j'insiste sur ce côté complémentaire. Il y a des gens, c'est tout pour moi.
Tout
pour moi. Ils arrivent dans des choses concrètes, un peu triviales, il y a quelque chose à table, ils prennent ce qu'ils veulent. D'autres ne vont ne rien prendre. Parce que, comme je ne vaux rien, je laisse tout pour les autres. Donc c'est complémentaire. Ce qu'on appelle les jeux psychologiques sont complémentaires. Il y a quelqu'un qui prend toute la place et il y a quelqu'un qui ne prend pas la place. Au moins à un niveau social. Parce qu'il y a deux niveaux dans la communication. Si on parle de nos grands-parents, monsieur est-elle le maître après Dieu ? Caricatural, mais... Donc il criait fort, il avait raison. Et madame, socialement, oh, 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 oh. Bon. Mais, à vos souhaits.
C'est la grand-mère qui a réagi.
Mais à un niveau interne, qui prenait les décisions ? Qui s'occupait des finances ? C'était assez souvent la grand-mère. Qui s'occupait de la sexualité ? Et quand on parle des finances, on parle de... quand on parle finance, sexualité, on parle des bourses, de la bourse, des bourses. Et quand on serre le cordon de la bourse, monsieur crie. Vous voyez, donc, il y avait ce qui était social, et puis ce qui était interne, ce qui était psychologique. C'est toujours complémentaire. Quand il y a quelqu'un qui domine, il y a quelqu'un qui est dominé. Et quelqu'un qui est dominé va être dominateur à son tour. On peut donner comme ça plein d'exemples. Dans une entreprise, c'est assez facile. Quelqu'un qui se fait sermonner... par son chef de service, veulent répercuter sur ses collaborateurs. Un des va le répercuter en rentrant chez soi, sur son partenaire de vie, qui va le répercuter sur les enfants, et qui vont maltraiter le chat, qui va bouffer le poisson rouge. Et c'est toute une chaîne où on évacue, on extériorise cette douleur qui nous est faite. Ce concept-là est fort. L'exorcisme, c'est-à-dire quelque chose que j'ai vécu difficilement, je vais le reproduire et le reproduire encore en espérant trouver une solution différente. Il y a une statistique qui date de quelques années. 70% des femmes violées se mettent en condition d'être violées à nouveau. Je refais la même chose dans l'espoir qu'il y ait une autre conclusion, une autre fin. Et si on dit avec d'autres termes, si je fais toujours la même chose, j'obtiendrai les mêmes résultats. Mais si je fais toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est une bonne définition de la folie. Oh, il y a pas mal de gens qui font ça. Hein. Bon, ça c'était sur la confiance. Très bien, le mariage, la confiance dans l'univers. Et donc, par rapport à la longue tartine de merde, dont il faut manger un petit bout chaque jour, avoir confiance en l'univers, oui, c'est pas le même monde. Et on ne vibre pas de la même façon. Parce que, avec les planètes, j'ai commencé à aborder l'aspect vibratoire, nous vibrons à une certaine fréquence, nos pensées nous font vibrer d'une certaine façon, nos émotions nous font vibrer d'une certaine façon, bien évidemment, nos croyances nous font vibrer d'une certaine façon. Il y a l'influence externe avec les micro-ondes, avec les planètes. Vous voyez, je ratisse large. Hein. Mais fonction de comment est notre vibration, nous attirons à nous la même chose. Je vous parle du monde de la synchronicité après. Je veux rester sur l'aspect comment affiner, alléger ce mental. Donc, la discipline, un mantra, ça c'est vraiment intéressant. L'intérêt du mantra, c'est de répéter régulièrement des paroles sacrées. Et vous pouvez en trouver un ou deux sur mon site. L'intérêt, c'est que ça apaise le mental. C'est très désagréable quand on n'a pas l'habitude. Les premières fois, on commence à penser à autre chose. Et quand on entre dans cette discipline et qu'on pratique une fois, deux fois par jour, c'est apaisant. Moi, ce que je propose, c'est d'écouter un yogi qui répète 108 fois « Om Namah Shivaya ». Et quand on rentre dedans, ça apaise. Quelque chose où je vous invite, c'est dire merci. Dire merci, peut-être vous avez vu le film de Avatar, c'est « Je te vois ». Je te vois, bon, aujourd'hui vous dites à quelqu'un « je te vois », bon, mais, bonjour, dire à quelqu'un « merci », c'est « je vois ce que tu fais et je perçois l'intention avec laquelle tu le fais ». Ce qui n'a rien à voir avec une expression violente, le petit mot magique. On attend le petit mot magique d'un enfant qui dise merci. J'ai appris ça il y a quelques années. Il y a l'éducation et il y a la domestication. C'est pas du tout pareil. Mais bien souvent, on domestique les enfants plutôt qu'on les éduque. Et quand on leur dit de façon violente, sans que ça se voit, « dis merci », c'est « merci ». Là où je vous invite, c'est de dire merci à quelqu'un, c'est au fond, ce que tu as fait, tu aurais pu ne pas le faire. Alors je t'en remercie. Et ça commence tout petit. Vous voyez, un exemple un peu que j'utilise régulièrement, c'est le petit enfant, la première fois où il met les couverts, on s'en moque que le couteau soit à droite ou à gauche. C'est de le féliciter, c'est de dire merci. Parce que son intention, c'est de participer à la vie de la famille. Vous voyez ? Quand la personne qui fait le repas, de dire d'apprécier le repas. Ou de dire merci. Parce que l'autre a fait le repas, il aurait pu ne pas le faire. Mais c'est dans les petits éléments de la vie où l'autre part en avant, puis s'arrête et nous attend. Et si à un moment donné, l'autre aurait pu ne pas le faire, quelle est l'intention de l'autre à mon égard? C'est commencer à regarder des petites choses qu'on ne voit plus pour voir la lumière dans l'obscurité. Et ça, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre qui est l'illustration de tout un tas de petits détails. Quand on va mal, on regarde tout ce qui va mal, tout ce qui va mal. Quand on ne se sent pas bien, quand on est en colère contre son partenaire de vie, on voit tout ce qui n'est pas fait. Ce machin n'est pas rangé, ça n'a pas été bien fait, gna 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 gna. C'est l'enfer est dans les détails, je crois. Mais le paradis est également dans les détails. Donc, dire merci, c'est une façon d'amener la lumière, d'amener de l'eau dans le verre d'huile. J'ai commencé à le dire ça tout à l'heure, je vous invite aussi à dire, à affirmer silencieusement, plusieurs fois par jour, je suis un être de lumière incarné. Je suis je, avec un J majuscule, je suis je parmi les autres. Je suis un être de lumière incarné, je suis je parmi les autres. Voyez, si vous me permettez, c'est le sens que je donne à la croix, au signe de croix. Je suis lumière, je suis un être incarné. Je suis dans un corps. Là, c'est l'axe horizontal. Christ, Jésus. Et l'axe horizontal, c'est je suis je parmi les autres. Et là, c'est Jésus-Christ, l'être incarné, qui est manifesté vis-à-vis des autres. Et dans cet axe-là, je suis je parmi les autres. Cette vision, c'est il y a un peu plus de 2000 ans. C'était Jésus-Christ. Aujourd'hui, dites votre prénom et rajoutez Christ. Nous sommes sur ce chemin-là. Sur le chemin, alors pour moi, c'est Gérard Christ. C'est fun. On est en train de changer d'air, on quitte l'air du poisson, où il y en avait un, c'était Jésus, pour arriver dans l'air du Verseau, où là, c'est la multitude. Imaginez votre vie en ayant cette conscience que votre prénom, Christ, ça fait un ensemble. Sentez, l'énergie change tout de suite dans la pièce. Bon, le mental. Le mental, c'est aussi important d'être attentif à son hygiène de vie. L'hygiène, ça commence par ce que je mange. Si vous mettez des éléments qui n'ont plus rien de vital, ça va bouffer votre énergie vitale. Une fois de temps en temps, pourquoi pas? Mais il y a des éléments qui sont pleins de vie. J'avais lu quelque chose de rigolo. Vous voyez, quand on mange de la salade, si on regarde la salade, c'était quoi son job? Son job, c'était d'absorber la lumière pour grandir, la photosynthèse, les photons. Donc quand on mange une salade, on se nourrit de photons. Ça permet de regarder la salade autrement. Donc quand on mange le règne végétal, on mange les photons direct. Et quand on mange des animaux, les animaux, ils ont mangé la salade. Donc quand on mange des animaux, on mange des photons de deuxième qualité, de deuxième main. C'est rigolo. Et il y a des gens, ils ne passent même pas par le niveau de la salade. Ils se nourrissent juste comme ça. Et il y a des yogis qui restent des années sans manger. Oui, parce que ce qui nous nourrit, ce sont les photons. Ce n'est pas la matière de la salade. La matière de la salade, donc on a besoin de fibres, de choses comme ça, mais à l'intérieur de notre corps, on a un certain nombre de virus, de parasites, ça c'est ce que j'ai expliqué la fois dernière. Et on nourrit tout ça en mangeant. Mais ce qui nous fait vivre, c'est cette lumière. Et donc, juste c'est un peu compliqué, quand on se nourrit d'éther, il y a un autre nom. Comme on dit quand on ne mange pas, on se nourrit du...
Prana.
Prana, merci. Quand on se nourrit du prana, c'est un peu difficile d'avoir une vie sociale. Mais bon, mais se nourrir du prana, c'est l'essence même de la vie. Donc se nourrir de cette lumière, bon, on peut se nourrir de salade, on peut se nourrir d'animal, mais rappelez-vous, nous nous nourrissons juste de la lumière, parce que nous sommes des êtres de lumière. Et ensuite, il y a ce que nous mangeons, et ensuite il y a comment nous mangeons ce que nous mangeons. Si vous mangez en regardant un film de guerre ou pire, en écoutant les informations,
c'est pareil.
Peut-être pire, parce que ça n'a pas le titre de guerre, alors que... Donc il y a tout un tas de réactions chimiques dans notre corps. Je vais le dire autrement. Ce qui est important, c'est quand on commence à manger, se poser et respirer deux, trois grandes inspirations pour que notre système ici, le système orthosympathique, se mette en calme. Et à ce moment-là, ce qu'on va manger, on va commencer à le digérer. On lance la digestion. Alors que si on est dans une discussion animée pendant le repas, on est dans le mode guerrier et le mode guerrier... On n'est pas dans le mode digestion. On se tire, on part en courant. Et donc, on a une grosse plotch dans l'estomac. Vous voyez ? D'où l'importance de manger relativement dans le calme. Dans les monastères, c'était manger en silence. Hein. Ça a du sens. Et il y a un moine au Mont-Saint-Michel. Il y a un grand réfectoire et un tout petit endroit où le moine lisait et l'acoustique permettait à toute la salle d'entendre. Ça a du sens, hein, de lire des choses apaisantes quand on mange. Parce que quand on mange, quelle est notre intention? Si vous avez vu les travaux d'Imoto sur le cristal d'eau, allez voir sur Internet, c'est fabuleux. Nous sommes composés en gros 75-80% d'eau. Ses travaux à lui, c'est, il imprime, il met un mot « amour » par exemple sur un verre d'eau, il fait congeler l'eau, et au microscope, il regarde le cristal d'eau. Et il a une forme absolument fabuleuse. Parce que « amour », c'est une vibration. Et il y a différents mots comme ça, il y en a un, c'est « haine », ou alors du « hard metal ». Vous voyez, la dissonance, la forme est totalement chaotique. Donc selon ce que vous mangez, selon avec qui vous parlez ou de quoi vous parlez, selon la musique que vous entendez, dans ce concert, mardi dernier, ces jeunes gens amenaient la beauté, amenaient l'harmonie, l'harmonique. Ça, c'est auditif. Et ça permet de s'apaiser. Dites-vous qu'en Inde, il y a quelques milliers d'années, il y a des cavernes de granit qui ont été construites. Aujourd'hui, on ne saurait pas faire. Avec un niveau de pureté au niveau du grain, c'est des microns tellement c'est lisse. C'était fort probablement des lieux de guérison. Toutes ont une fréquence vibratoire particulière. Et donc la vibration, c'est ce qui met en harmonie. Ce qui est plus accessible pour nous, ce sont les bols tibétains, par exemple. Un bol, il a une fréquence, il va toucher un ensemble énergétique de notre corps et amener, de façon plus moderne, il y a les vaisseaux de cristal. C'est beau! C'est beau! Ça fait une sonorité qui emmène ailleurs. Alors, non. Voilà. Donc, c'est ce que j'écoute, ce que je lis, ce que je fais, en sachant que la médiocrité, ça nourrit le mental, alors que la beauté, ça nourrit l'âme. Vous voyez, être dans des lieux comme ça, ça nourrit l'âme. Alors, non, ça, j'ai dit, non. Un thème que j'aime bien aborder, le mental, il est structuré en binaire. Homme-femme, j'ai raison, t'as tort, tout ça c'est le binaire. Ça appartient à l'air du poisson, très bien. Donc ce que je vous ai suggéré, c'est l'index de computation, soit autre, le monde en simultané, avec des pourcentages qui varient. Il y a des moments où on s'occupe plus de l'autre, tout en prenant soin de soi, tout en ayant confiance dans l'univers. Puis il y a des moments où on s'occupe plus de soi, tout en tenant compte de l'autre, tout en étant dans l'univers. Donc le mental a cette notion du passé et du futur. Donc ce que le mental aime bien faire, vous savez, le mental, c'est assez souvent le petit vélo, le dialogue intérieur. C'est vivre dans le passé. C'est j'aurais dû, t'aurais dû, ou alors les souvenirs. Oh. Ah, de mon temps, vous savez, c'était mieux. Et donc, c'est rester dans le passé. Et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est imaginer le futur comme un copier-coller du passé. Donc les ennuis du passé, ben on va les retrouver dans le futur. Ça c'est basique, ça fonctionne bien. C'est une certitude. Plus je crois à ça, plus ça va le faire. Donc soit on est complètement axé dans le passé, soit on est complètement dans le futur, avec « ce sera mieux demain » ou alors toutes les angoisses d'anticipation. Les angoisses d'anticipation, on sait qu'elles ne viendront jamais. Et ce qui arrivera de difficile, on a la capacité de les gérer. Mais les angoisses d'anticipation, bien. Donc, quitter le mental, c'est vivre au présent. Quelle est la caractéristique du présent ? Là, il faut attacher vos ceintures de sécurité, on commence à prendre de la vitesse et à s'envoler. Qu'est-ce que le présent ? Au Moyen-Âge, si quelqu'un avait dit cela, sûrement il y a des gens qui le disaient déjà au Moyen-Âge, c'était dit du temps d'Aristote, il parlait au présent. Et je parle toujours du même temps, du présent. C'est le même temps, parce que ce temps-là, c'est le temps de notre âme. C'est le présent. Si vous voulez que j'emploie un autre mot, c'est l'éternel présent. Donc vivre dans l'éternité, vivre éternellement, si c'était juste vivre au présent. Bon, je vais compliquer ici un peu. Et j'ai basé mon propos sur nous sommes des êtres de lumière. Or, nous vivons dans un monde sous-lumineux, c'est-à-dire la lumière a une fréquence plus lente, et c'est pour ça que cette table, on peut la toucher. Et il y a un monde supraluminique. Et dans ce monde-là, donc c'est une théorie du professeur Régis Duteil, Ça, je vous conseille, ça s'appelle L'homme superlumineux. C'est le premier tome. Et le deuxième tome, c'est La médecine supra ou superluminique. Donc L'homme superlumineux, chez Sand, professeur Régis Dutheil, D-U-T-H-E-I-L. Et Brigitte Dutheil. C'est un vieux livre qui permet de faire un résumé sur les différentes philosophies et d'aborder la physique quantique. C'est facile à lire. Hein. Et donc, il dit, on n'en sait rien, mais on va se lancer dans une nouvelle théorie. J'ai lu ce bouquin il y a longtemps, et puis hop, il m'est réapparu, et ça m'a permis de... Vous savez, au fil du temps, notre conscience évolue. Et des éléments épars, qui étaient cohérents, ont pris une nouvelle forme de cohérence. Pour moi, je suis vraiment persuadé que nous sommes des êtres de lumière. Et là, cet aspect supraluminique. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est au-delà des 300 000 km/s. Ce monde-là, nous le connaissons sans le connaître. Notre mental n'y a absolument pas accès. C'est un monde où il n'y a ni passé, ni présent. Où les particules de lumière peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut voyager dans ce qui est pour nous le passé. Puisqu'on n'est pas à la même vitesse. C'est décrit, hein, c'est les films de science-fiction. Mais on s'en approche, surtout que nous sommes dans l'ère du Verseau, donc on va regarder ça autrement. Et nous connaissons tous cela par les phénomènes de synchronicité. Parce que dans ce monde superluminique, il n'y a ni temps ni espace, ce qui veut dire que tout est là, en même temps. C'est simple et un peu complexe, parce que notre mental, il ne se laisse pas faire. Notre mental, lui, se repère avec passé, présent, fut bien, mal. Là, attendez, si tout peut être en même temps, je vous donne un exemple plus léger. Vous avez des enfants ou il y a des enfants dans votre entourage. Vous êtes plus âgé que les enfants. Mais l'âme de ces enfants, ça pour le mental, oh, c'est un peu compliqué à percevoir. Vous voyez ? Donc cette notion, on n'est plus dans la relativité qu'a pu décrire Einstein, on est beaucoup plus dans ce qu'aborde la physique quantique. Et la physique quantique, ça nous enseigne qu'un photon, on le frappe, il peut aller dans deux directions. Il passe par une fenêtre ou il ne passe pas par une fenêtre, ça dépend de l'observateur. Mince, c'est ennuyeux parce que on ne peut pas prédire à l'avance ce qui va se passer. C'est fonction de l'observateur qui a un résultat. Et notre cerveau a cette fonction d'observateur. C'est-à-dire fonction de ce que nous croyons, nous allons observer la vie, nous allons attirer les éléments de la vie en fonction de ce que nous croyons inconsciemment. Et il y a quelques années, je m'occupais de... Il y avait une mouvance qui était sympa, qui était la loi de l'attraction. J'ai rencontré des gens. Et la loi de l'attraction, ils voulaient, un exemple simple, ne plus payer de factures. Comme l'inconscient ne connaît pas le côté négation, ce qui a été dit, c'est facture. Donc en voulant ne plus payer de factures, on a encore plus de factures. Donc des gens disaient, je veux avoir de l'argent pour payer mes factures. Mais c'est vibré sur quoi? Sur ne plus payer de factures, c'est-à-dire sur le manque. Donc on échafaude tout un discours mental, intellectuel, mais on vibre sur ce que je crois de moi. Donc ce dont il est, là on est tous un peu dans ces prémices-là. Parce que notre mental, oui, c'est bien beau, un monde supralumineux et tout. Et si c'était notre nature? Et vous voyez, si je reprends Christ, on le place où? Et si Christ, c'était cet aspect supraluminique? Et à nous, hein, j'insistais, je mettais votre prénom, Christ, sur Terre. Donc c'est vraiment le temps dans ce changement d'air de conscience où on va aller de plus en plus avoir ce discours, enfin, c'est même plus un discours, c'est cette représentation de cette hyper-lumière. Alors si vous regardez les films de science-fiction, il y a plein de choses, hein. Il y a des films de science-fiction, on pourrait même dire que c'était juste des films qui évoquaient notre présent actuel, mais tout ce qui est soucoupe volante et tout. C'est rigolo, hein. Bon, il y en a qui aiment les films de science-fiction, d'autres non, mais qu'importe. Mais Tesla, quand même, il a fait rouler une voiture pendant plus de 500 km sans aucune énergie, si ce n'est l'énergie de la lumière. Tous ses travaux ont été brûlés, son laboratoire a été saccagé. Quand on change d'air, il y a les forces de résistance, ça c'est l'approche systémique, les forces de résistance qui résistent encore plus. Donc ça fait toujours un équilibre, jusqu'à temps qu'il y ait une réaction. Mais donc là, on est dans une ère avec des choses de plus en plus lourdes qui apparaissent, parce qu'il y a de plus en plus de lumière. Donc, c'est comme une réaction nucléaire.
C'est pas comme les enfants qui naissent actuellement et qui sont indigo, qui sont je ne sais plus quelle couleur. Il n'y a pas un rapport avec ça?
Alors, je ne veux pas parler des enfants indigo, mais les enfants qui naissent, ils naissent à une période de transition. Nous aussi, nous sommes arrivés à cette période de transition, mais avec un corps un peu ancien, avec des perceptions un peu anciennes. Certains enfants qui naissent, eux naissent avec beaucoup plus de facilité vis-à-vis de la lumière. Mais ça veut dire qu'ils sont en complet décalage avec le vieux monde. Parce que le vieux monde, la pensée est lourde, la pensée est binaire. On ne sait pas utiliser tout l'aspect de notre cerveau. Il y a des choses extraordinaires, par exemple, chez un autiste. Si vous regardez Rayman avec une interprétation absolument fabuleuse, ce sont des allumettes qui tombent. Hop, il connaît le nombre d'allumettes. On sait tous faire ça, notre cerveau a cette capacité. Donc, les enfants qui sont en train d'apparaître ont une hypersensibilité parce qu'ils voient des choses que nous avons appris à ne pas voir. Pendant 25 ans, j'ai enseigné la perception de le développement de l'intuition. Et ce que je disais que le plus difficile, c'était de montrer aux gens à quel point c'était simple. On sait tous faire, mais à peu près vers l'âge de 3 ans, pour des raisons psychosociales, un petit enfant, il joue avec un pote de lumière, enfin, il joue avec un ami. C'est un pote de lumière. Et s'il joue un peu trop longtemps avec un ami invisible, ça ne va pas plaire. Il est un peu fêlé du bocal. C'est un discours très nord-américain, mais bon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant, vers 3 ans? Ben, il renonce à voir et il rentre dans le monde des adultes, dans le monde des aveugles. Alors que percevoir les couleurs, percevoir le sens de ce qui se passe pour quelqu'un. Franchement, c'est simple, on sait tous faire. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, je faisais des soirées démonstration. Je me rappelle, à Paris, il y a un homme, je secoue toutes vos foutaises, il vient, il est habillé, et je lui parle de sa vie, non. Et je lui décris la cicatrice qu'il a sur le mollet. Droit ou gauche, je ne me rappelle pas. Bluffé. Mais on sait tous faire ça. Et vous voyez, dans ce monde supraluminique, nous semons et nous récoltons en fonction de comment nous vibrons. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cet aspect du mental, pour avoir une attitude de vie où d'avoir une pratique, de dire merci, d'avoir une pratique de remercier, de prier. Prier, c'est je remercie pour ce qui est en cours. Le miracle est déjà en cours, mais c'est avoir cette foi. Et à ce moment-là, je vibre. Oui, j'étais parti tout à l'heure pour les virus et tout ça. Elle s'appelle comment ? À Nevers, on a une sainte. La sainte à Nevers, elle s'appelle comment ? Bernadette ?
C'est celle Bernadette Rouleau qui habite là-bas. Qui est dans la chaire.
Oui, oui, qui habite là-bas. C'est tout à fait ça. Eh bien, comme bon nombre de personnes, son corps ne s'est pas putréfié. Mais ça arrive. Des gens lambda qui ont une dévotion, je serais tenté de croire que les virus, les bactéries, ne se développent pas dans leur corps. Donc leur corps ne pourrit pas. Parce qu'ils ont une façon de penser, parce qu'ils vivent dans la lumière tout en étant sur Terre. C'est génial. Ah oui, mais non. Un corps, il pourrit. Ben, pas nécessairement. Et elle n'est pas conservée avec, comme certains avec des produits chimiques, c'est naturel. Bon, elle est là dans une chasse pour protéger parce qu'il y a plein de gens qui viennent la voir et elle n'est plus dans quelque chose de protégé.
Le contact de l'air, ça l'a fait noircir.
Ouais. Donc elle est légèrement cirée, mais il y a encore une énergie qui est là. Ce n'est pas une enveloppe creuse. Ça échappe totalement à notre mental. Comme de se nourrir uniquement de lumière, ça échappe à notre mental. Ben oui, c'est pour ça que notre mental, c'est le spectre des fréquences. On va dire qu'il est grand comme ça. Ça, c'est des images, vous allez sur Internet. On dit qu'il est grand comme ça. Qu'est-ce que nous percevons ? Ça ! Peanuts ! Et donc les malheureux qui disent « je crois que ce que je vois », il faut qu'ils s'acceptent d'être des aveugles. Hein. Nos yeux ne voient pas les infrarouges. On a une petite glande qui régit d'un point de vue énergétique nos yeux. Cette petite glande nous permet de voir les yeux fermés, donc c'est comme ça qu'on voit. Hein. Les infrarouges. Donc quand cette petite glande est éveillée, pas trop entartrée, eh bien on voit naturellement si... il y a des âmes errantes dans une pièce. Ça, c'est un autre débat, les autres, l'aspect errant. Donc, je voudrais juste que vous perceviez que nous entrons dans une dynamique, et c'est important de s'y préparer, de ce côté synchronicité, ça veut juste dire que nous sommes des êtres... lumineux vivant dans un monde sous-lumineux. Nous sommes des êtres supraluminiques vivant dans un monde sous-lumineux. C'est plus dans ce sens-là. Il y a un monde sous-lumineux, il y a un monde lumineux qui est l'intervalle et un monde supraluminique. Nous sommes des êtres de lumière hors du temps, hors de l'espace. C'est incompréhensible pour notre mental. Et nous pouvons alors réorganiser tout notre corps et savoir que notre cerveau a cette fonction supraluminique. C'est fun, hein ? C'est high-tech ? Et pour moi, ça me fait visiter d'une autre façon. J'ai plusieurs appareils. J'ai un appareil fréquentiel. Donc lui, il utilise de l'ADN d'ongle, par exemple. Ça, c'est simple. Je programme l'appareil. Avec votre ADN, ben, je mets l'ADN dedans. Donc votre ADN, c'est une adresse fréquentielle. Je programme l'appareil pour zigouiller tel virus. Et donc, ça fait une inversion de phase au niveau de votre corps et le virus meurt. Ou en tout cas, est désactivé. C'est 1 plus moins 1 égale 0. Ça, c'est simple. C'est fréquentiel. On a comme ça des appareils, les Russes sont très forts là-dessus, pour soigner tout un tas de pathologies. Rien qu'avec des fréquences. Et j'ai un appareil qui, lui, est basé sur des photons. Oh. Oh, vous savez, c'est pas pareil que ce qui est... Je suis pas physicien, donc je saurais pas dire. Je sais que c'est un aspect ondulatoire. Je sais qu'il y a un miroir de Kirloff, non, ça fait des... Bon. Mais je suis super heureux d'être revenu sur ce bouquin. Il est quasiment tombé de ma bibliothèque. En disant, faut revenir là-dessus. Donc, ce qui me motive, c'est le mental. Ce que je vous disais tout à l'heure, il est plein de croyances qui sont nourries d'un point de vue karmique, mais aussi transgénérationnel. Et donc ça, c'est imprimé d'un point de vue sous-lumineux et lumineux. Donc pour moi, ça ouvre une autre perspective sur l'utilisation de ma machine. Vous voyez, de nettoyer d'un point de vue supraluminique, ou en tout cas lumineux, parce que je ne connais pas toutes les compétences de mon appareil. Je sais que je m'en sers à un bon pourcentage, mais je dirais 40%. Je n'ai pas la prétention de dire... Je ne sais pas si mon appareil, il est dans le lumineux ou dans le supraluminique. Mais ce que je sais, c'est que du coup, mon champ de conscience, lui, peut avoir accès au supraluminique. Et quand j'utilise mon appareil, je me mets vraiment dans un autre champ de conscience. Et en fin de séance, il me faut un temps, ne serait-ce que pour redonner un rendez-vous suivant. Parce que ce n'est pas du tout là où est mon champ de conscience. Et donc, moi j'imagine volontiers qu'avec cet appareil, je peux toucher ce qui est de notre mémoire lumineuse pour transformer. Je vous disais, pendant 30 ans, ce qui m'intéressait dans la psychothérapie, thérapie c'est soin, psycho c'est psyché c'est l'âme. Donc ça fait 30 ans que pour moi la psychothérapie c'est le soin de l'âme, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de psychothérapie sur les thérapies cognitivo-comportementales. Elle ne touche pas l'âme vraiment, elle touche un comportement, ça, avec un champ d'action intéressant et illimité. Et je me suis rappelé. Et il y a 30 ans, en 90, quand j'ai commencé, mes premières cartes de visite, c'était psy de lumière. Puis je me suis dit, au bout d'un moment, ça ne va pas m'amener. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Et cet appareil, je boucle quelque chose. Et entendez, toutes ces mémoires, on ne peut pas les traiter avec le mental. Donc, la psychothérapie basée sur la parole, c'est bien. Il y a des éléments qui changent, mais on ne va pas au fond des choses. Ça fait 30 ans que je dis, ce n'est pas la peine de comprendre pourquoi on va mal. On peut faire tout à fait sans comprendre. Parce que le côté de comprendre les mécanismes qui font que nous allons mal, honnêtement, c'est facile, on sait pourquoi on va mal. Des différents niveaux de croyance. Le mensonge personnel, c'est une croyance assez profonde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne vaux rien, hein. Mais la croyance pivotale au fond, c'est « je ne suis pas aimé, je ne suis pas digne d'amour, je suis coupable. Je ne suis pas digne, je suis imposteur, on le décline. Je suis coupable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « je suis coupé », ça veut dire « je me suis coupé de ma lumière ». Et donc, dès que je me coupe de ma lumière, je suis dans le binaire et je suis dans les jeux de pouvoir. J'ai raison, t'as tort. Ça, c'est merveilleux. Donc, j'ai développé, fut un temps, un thème, j'aurais bien écrit là-dessus, le pouvoir de la victime. C'est fabuleux. C'est de ma faute. Ah, si tu vas mal, c'est de ma faute. Putain, je ne suis pas loin de Dieu, là. Hein. C'est le pouvoir narcissique. Et la victime, c'est vraiment la prise de pouvoir sur l'autre. Mais entendez, de pouvoir nettoyer à la fois ce qui est karmique, ce qui est transgénérationnel, sans avoir besoin de le comprendre. Moi, déjà, j'avais des modèles pour soigner la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère et d'autres générations, d'un point de vue psychologique. Ça, c'est fun. Mais je ne demande pas à la personne de comprendre. Parce que, de toute façon, on ne sait pas. Vous voyez, c'est caricatural, mais une femme qui vient, qui a envie d'être en couple et qui n'y arrive pas, ça c'est assez régulier. On remonte à 2-3 générations. Et on tombe facilement sur une aïeule qui a été violée. Et du coup, il y a une haine qui est transmise de génération en génération. Et cette haine, elle est vis-à-vis de l'autre, que ce soit un homme ou une femme, et vis-à-vis de soi. Et quand on est dans la haine, on ne peut pas être dans ce mariage interne, on ne peut pas être dans un mariage avec l'autre. Et donc c'est nettoyer à l'intérieur ce que nous portons de ce message transgénérationnel. Et je suis vraiment convaincu, je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, que ça veut dire que dans une autre vie, notre âme a habité un corps qui a été un corps de violeur ou un corps de violé. Et dans cette vie-là, notre mental porte cela pour une guérison, mais une guérison tous azimuts, et nous pouvons guérir aussi bien ce qui est transgénérationnel que ce qui est karmique, puisque dans cette dynamique supraluminique, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur, tout est au présent. C'est-à-dire ce qui a un temps sur Terre de 5000 ans est toujours présent, l'éternel présent, dans ce champ supraluminique dont nous n'avons que quelques traces, que quelques souvenirs. Donc entendez, il y a vraiment toute une perspective de nettoyer et de concourir alors une évolution. Parce que quand on regarde, par exemple, l'idée des vies antérieures, eh bien, on renaît aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à temps que notre champ de conscience se soit transformé. Et dans ce qu'il raconte, c'est que notre conscience est un flux d'informations suffisamment grand, après à définir ce que c'est que l'information d'un point de vue supraluminique, pour ne plus avoir besoin de revenir sur Terre. Et moi, ce qui me motive vraiment très fort, c'est comment, sur Terre, dans ce moment-là, accompagner des gens pour être dans cet aspect supraluminique. Ça veut, bien sûr, l'idée, c'est qu'on puisse tous devenir son prénom et Christ, mais déjà d'avoir conscience que cela, c'est possible, c'est contribuer à une évolution de la conscience de l'humanité. Bon, voilà, c'est dans d'autres sphères. On a dépassé les 300 000 km seconde. Mais il y a plein de belles choses qui font peur à notre mental et qui existent, qui sont là. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Un mental qui a envie de dire quelque chose, ou un petit bout de lumière qui dit « oui, ça m'a touché quelque part ».
Ce grand nettoyage dont vous parlez, il va durer combien de temps?
Ah, ça je ne sais pas.
C'est le mental qui parle forcément, puisque c'est l'éternité, c'est le prénom. Mais...
Oui, oui, c'est ça, c'est le mental, il dit qu'une chose, c'est « rassurez-moi, je veux comprendre ». Là, d'un point de vue société, il y a des discours différents, de choses qui vont bouger. D'un point de vue ésotérique, ce qui est notre tradition, ce qui est ésotérique, c'est... Je vous raconte une histoire. Dans un autre temps, les sages ont dit « La vérité de lumière, il faut la cacher aux hommes. » Certains ont dit « Oh, on va la cacher au fond des océans. » Les hommes iront bien un jour ou l'autre au fond de l'océan pour l'explorer. Qu'on exporte très peu au demeurant, mais ce n'est pas l'histoire. D'autres ont dit, on va la cacher au fin fond des étoiles. Oh, l'homme ira bien explorer le fin fond des étoiles. Ah oh. Alors un a dit, on va cacher cette vérité lumière au fin fond du cœur de l'homme. Donc on sait, ça c'est la tradition ésotérique. La tradition ésotérique, c'est l'alchimie, c'est ce qui se passe au niveau de l'ancienne Égypte. Tout ça, c'est notre tradition. Après, qui est toujours... c'est comme la religion. Comme c'est fait par des humains, il y a une grande partie qui est prise pour devenir un dogme. Donc après, les traditions ésotériques, ça a été pris par différentes sectes qui ont des noms différents pour utiliser un pouvoir humain. Mais dans notre culture, cette évolution, c'est quoi le propos de l'alchimie? C'est transformer le plomb en or par le feu. C'est un discours christique. Le plomb, c'est le corps. Le feu, c'est la lumière, c'est Christ. Et pour le transformer, ça donne l'or. L'or, c'est Jésus-Christ. C'est à chaque fois les trois éléments. Dans cette initiation, ce sont les trois éléments. Et dans ce qui est sous-lumineux, lumineux, supraluminique, il y a encore trois éléments. Donc on sait que quand il y a une bascule d'air, il y a des morts. Bon, l'Atlantide, c'est un continent qui a disparu. Les Mayas, ils ont atteint un tel niveau d'évolution que le peuple a disparu. Mais quand on dit des millions de morts, ça vous les chauffote, mais quand on dit, ils ont disparu. Est-ce qu'ils sont morts? Il y en a qui vont dire qu'ils ont changé de conscience, donc ils sont peut-être partis sur une autre planète. Chacun peut raconter ce qu'il veut, de toute façon. Il fait référence dans son livre aux gens qui font des expériences de mort imminente. Donc il y a à chaque fois des étapes qui sont décrites, Kubler-Ross les a bien décrites. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé après, puisque après ils ne sont pas revenus. Mais dans les films de science-fiction, il y a des idées qui sont développées. Et c'est comme si cet aspect supraluminique s'est développé. Il y a des gens sur Terre qui ont accès à cet aspect supraluminique. Hein, les avatars, les gens qui sont éveillés. Et il y a des enseignements supraluminiques avec des musiques que l'on ne peut pas entendre, mais des musiques qui transforment notre champ de conscience. Mais des musiques qu'on n'entend pas, elles sont d'un autre ordre. Voilà, d'autres des commentaires, d'autres. Quelqu'un veut parler de ces affres mentales pour. C'est facile à décrypter, hein, y a pas besoin. C'est amusant. À ce propos, tiens, je me fais un petit peu de pub. Le 1er mai 2025, je fais un séminaire dans un château, en Touraine, a priori dans un château, sur le mensonge personnel. Ça va être 4 jours. Donc bien évidemment pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi c'est un séminaire qui est ouvert à des jeunes thérapeutes. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah, c'est chouette tout ça, faire de la lithothérapie, faire des nuits », mais ils n'ont pas appris les bases, et la base c'est quand même toucher son cœur. Parce que ça, le mental, il sait très bien faire. Hein. Nous raconter plein de choses et on se croit sur une voie spirituelle. Il y a plein d'enseignements spirituels qui sont basés sur le renforcement du mental. Je peux vous assurer.
Le bouddhisme et tout ça avec le nirvana.
Non. Ça, c'est des choses qui sont millénaires. Non, ça a du sens. Non, mais comme on est dans l'ère du Verseau, il y a plein de gens qui se découvrent une affinité naturelle à être thérapeute. Mais il faut quand même dégager un peu le mental pour être thérapeute, même si la forme de thérapie que tu emploies, elle est basée sur chaque démarche de développement personnel est basée sur la rencontre. Et selon l'éveil du thérapeute, il te conduit à un endroit ou à un autre. Moi, je me rappelle quand j'étais en supervision, ça remonte à quelques dizaines d'années, le superviseur nous expliquait qu'il avait fait de la supervision avec des psychanalystes et qu'il s'est aperçu que dans la clientèle d'un psychanalyste, il y avait un taux de suicide plus important. Et en fait, le psychanalyste n'avait pas fermé ses issues de secours, et donc il avait des tendances suicidaires qu'il n'avait pas traitées et qu'il lançait inconsciemment, bien évidemment. Alors qu'un psychanalyste a 7 ans d'études et une psychanalyse de fait. Imagine quelqu'un qui a fait 2-3 week-ends de formation et qui se lance dans la relation d'aide. Voilà, mais entendons-nous bien, il y a toujours cette tentation de soigner les autres pour éviter de se soigner soi. Et c'est pour ça que lorsqu'on va voir un thérapeute, c'est intéressant de lui demander s'il a fait un peu de thérapie lui-même. Et en tant que thérapeute, s'il a fait un peu de supervision. La supervision, c'est un thérapeute, eh bien, il parle à quelqu'un qui a plus d'expérience que lui, qui a aussi une formation plus importante. Et c'est génial la supervision. Moi, j'accompagnais des gens à entendre ce qu'ils n'entendaient pas. Bon, ça c'est un peu mon génie personnel. J'entends ce qui n'est pas dit. Et ça me permet de gagner du temps. Et chacun de nous a un génie particulier. Et ce qui est intéressant, c'est d'exploiter son génie. Et on a des génies dans des horizons différents, mais on est tous complémentaires. Et donc dans ce séminaire, ce sera basé sur le mensonge personnel, ce sera ouvert à monsieur, madame, tout le monde. On fera sûrement un peu de travail super luminique, quand même. C'est amusant. Mais on fera aussi un aspect respiratoire, un aspect naturopathe. On va faire quelque chose d'assez complet. Ce sera sur 4 jours. C'est le pont du 1er mai. Sûrement dans l'ambiance d'un château.
Avec du vin.
Oh bah oui. Oh bah oui. Maintenant, comment augmenter, comment changer la structure du vin? Enfin, il y a des choses comme ça que je montrerai. Un bon vin, quand il est bon, on peut toujours l'améliorer. Mais oh, une piquette, c'est pas la peine. Mais un vin, on peut l'améliorer. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Soit avec le magnétisme, bon, ça c'est plus trop. Mais en utilisant des formes d'énergie, avec des structures d'énergie. On ne s'y trompe pas, l'ancienne Égypte, ils savaient faire des choses qu'on ne sait pas faire encore. Dans la médecine, à cette époque-là, ils pouvaient faire des trépanations et l'os se ressoudait. Ils faisaient ça de manière courante. Aujourd'hui, c'est complexe. Hein. Ils acceptaient, il y avait des gens qui avaient des capacités, ils se mettaient... Ils étaient présents, tout simplement, et ils empêchaient l'hémorragie. Donc le chirurgien de l'époque, il pouvait opérer. Si vous allez vous promener dans les temples en Égypte, vous verrez la porte est plus petite, parce qu'ils étaient moins grands que nous à l'époque, peut-être. Mais surtout, ils ont repris ça dans certains monastères. C'est déjà en signe de dévotion, on s'incline. Mais dans les signes de l'ancienne Égypte, vous verrez, il y avait des ondes de forme pour nettoyer énergétiquement ceux qui rentraient dans l'enceinte, dans la grande enceinte. Et il y avait d'autres signes pour ceux qui rentraient près du Naos, le temple du temple, le Naos. Donc il y a plein de choses d'un point de vue vibratoire qui existaient et qu'on est en train de redécouvrir, qui sont tout simplement de l'ordre du supraluminique. Bon, j'espère que ça vous a... C'est bien, oui. Qu'on a fait le tour.
Merci.
On peut toujours en dire d'autres, voilà. Hein, mais... Voilà, là, c'est bien. J'espère en tout cas que ça va vous faire des rêves, de lumière, et que votre champ de conscience ayant été touché, qu'à votre façon à vous, vous puissiez contribuer à amener cette lumière. C'est-à-dire de savoir qu'elle est là, qu'elle est... Alors on ne peut pas dire bienveillante parce que c'est un mot galvaudé, mais c'est l'amour, ce n'est pas encore trop galvaudé, vous voyez. Un amour infini. Un, c'est un ablatif, ça veut dire qui n'est pas encore fini. Bon vent.